de France Dimanche, Art Diderot, l'humanité, le veuve Clicquot, Lénine et le satiricon.
Si vous regrettez déjà vos vacances, c'est le moment de se plonger dans l'imaginaire des différents livres proposés par nos libraires préférés. Et oui, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée littéraire. De quoi oublier le métro boulot-dodo et de découvrir les univers merveilleux, réalistes ou remplis d'émotions des dernières sorties. On a donc donné rendez-vous à Johanna de Tour et Détour et Pierre du Légendarium, mais avant ça, direction Cap Nord avec Laurent.
Alors la librairie Cap Nord, elle est sur Arras depuis 25 ans. Elle s'est déplacée plein de fois. Là, c'est la troisième fois. Normalement, on va rester ici. On est dans la rue des Balances. Et on ne fait que de la bande dessinée, du manga et du comics, depuis 1997. Pour moi, la bande dessinée, c'est tout autant du comics que du manga. Et donc là, dans la bande dessinée, je vais parler de Tezuka. Ça s'appelle Phénix. Ça parle de l'oiseau de feu qui renaît de ses cendres. Tezuka, en fait, a écrit ce manga-là sur 30 années de vie. Il ne l'a pas achevé. Mais en même temps, on s'en fiche parce qu'en fait, c'est une histoire qui est méta. C'est-à-dire que à chaque tome, en fait, on va se retrouver à une époque complètement différente. L'oiseau de feu, un oiseau qui, si on se nourrit du sang de cet oiseau, permet en fait de devenir immortel comme lui, va devenir en fait un personnage de premier plan ou secondaire ou tertiaire durant toute la lecture de la série. Donc, on va avoir des histoires qui vont se passer pendant l'ère Edo au Japon, d'autres des grands récits de science-fiction. Et c'est un chef-d'œuvre de la littérature manga ou de la bande dessinée japonaise. Et c'est écrit donc par le Tezuka Osamu Tezuka. En gros, c'est le RG japonais. C'était le dessinateur que tous nos auditeurs les plus anciens doivent connaître, qui s'appelle Astro le Petit Robot. Sinon, après, en bande dessinée américaine du comics, ça s'appelle Le Labyrinthe Inachevé. Et en fait, c'est une histoire qui me donne des frissons rien que de voir la couverture. Ça parle d'un homme d'une cinquantaine d'années, il s'appelle William. Et en fait, au début de l'histoire, on le retrouve dans un métro. On sent que lui, il est vide et en fait, il a arrêté de vivre, même si en fait, finalement, sa routine prend le pas. Et en fait, William, au moment où on le prend dans le récit, donc dans ce métro, et ben en fait, il nous parle de sa fille. Et à partir d'aujourd'hui, il ne se souvient plus du visage de sa fille qui est décédée il y a 10 ans. Cette fille, en fait, elle est décédée, elle a un cancer, donc tout ça est malheureusement bien triste. Et en fait, lui, il s'en veut beaucoup parce qu'il se souvient juste du pull rouge un peu effiloché qu'elle portait tout le temps. Et lui, dans son petit appartement new-yorkais, un soir, complètement éméché, il va avoir un coup de fil et c'est sa fille qui l'appelle. Sa fille l'appelle pour venir le rejoindre au centre du labyrinthe. Et là, il va essayer sans cesse d'essayer de la retrouver. Ça nous rage tout en émotion, qui va très très loin et qui part du deuil. Et donc, c'est un beau conte qui peut réparer beaucoup de blessures. Donc, c'est de Jeff Lemire, c'est Le Labyrinthe Inachevé, et c'est aux éditions Futuropolis. Je continue dans les trucs un petit peu durs. Mered, de Clara Lodewijk. Donc là, on va parler d'une jeune autrice qui publie son premier livre. Et Mered, en fait, ça se passe dans les Flandres. On va suivre de façon totalement contemporaine une femme qui donc, s'appelle Mered et qui vit seule dans un village qu'elle n'a jamais quitté. Et d'ailleurs, en fait, tous les habitants de ce village-là ne l'ont jamais quitté. Ils ont peur de la ville. Et Mered, en fait, elle a une vie un petit peu particulière. Déjà, contrairement à tous ses amis d'école, parce que maintenant, elle a une quarantaine d'années, et ben, en fait, elle a décidé de ne pas choisir d'homme. Elle vit avec ses canards qu'elle élève, qu'elle gaffe de temps en temps. Elle a un petit boulot de pigiste au sein du journal local. Elle a une petite vie en marge, quoi. Et un jour, il y a quelqu'un qui va lui en vouloir. Et là, la rumeur va venir envahir sa vie. Et elle n'y prête pas forcément d'attention parce qu'en fait, elle connaît tout le monde. Elle se dit que tout ça va vite s'estomper et ça va aller très très loin. Et ça va être assez horrible. Moi, ce que j'ai adoré dans ce premier bouquin, c'est que en fait, tous les personnages sont importants et en fait, ils ont tous une syntaxe particulière. Parce qu'en fait, quand on lit un livre, souvent, ce qui est un petit peu, je trouve, disgracieux, c'est que toutes les personnes vont parler de la même façon. Et là, je trouve que pour Mered, Clara, eh ben, elle réussit à faire quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, c'est Mered chez Dupuis. Chez les libraires, on peut trouver ça sous l'appellation Ils ont Mercinelle, parce que ce n'est pas indiqué Dupuis sur la couverture. Le dernier, moi, ça, c'est un gros coup de cœur. C'est une bande dessinée ado. Ça s'appelle Fil unique, c'est chez Dargo. C'est une histoire qui sera en 5 tomes. Et en fait, il y en a 3 actuellement. C'est écrit par Baker et c'est dessiné par Camille Méhu. J'adore son dessin avec ses gammes colorées. À chaque tome, il y a une gamme colorée très différente parce qu'en fait, Fille unique s'adresse à l'histoire de 5 filles adolescentes qui ont tous en fait une différence dans la vie. Et cette fille, en fait, qui ont des différences et qui sont donc mises de côté complètement au lycée dans lequel elles sont. Et bien en fait, il y en a une des cinq qui va décider de créer un club, le club des filles uniques. Et en fait, à chaque tome, quatre filles vont s'allier pour pouvoir rendre la vie meilleure d'une des filles. Et petit à petit, ben en fait, on se rend compte que finalement, on est toujours plus fort quand on est ensemble. Et puis surtout, c'est bien d'accepter qui on est, pour accepter ces différences, pas pour se modifier, pas pour rentrer dans le moule, mais pour que la différence devienne qualité. Je ne saurais que trop vous conseiller, à partir de 10-11 ans, c'est vraiment des vrais baffes, parce qu'en fait, c'est assez difficile. On parle de sujets assez dur. Par exemple, le premier tome, en fait, on va suivre une fille qui est orpheline, qui va de famille d'accueil en famille d'accueil, qui est considérée comme étant une pyromane. On va découvrir dans le premier tome que, en fait, c'est totalement faux, qui n'arrive pas à se créer d'amitié à l'école. Le deuxième tome, on va suivre l'histoire d'une fille qui reçoit des SMS un petit peu dangereux le soir, qui lui explique par A plus B qu'en fait, elle n'a rien à faire de bien dans ce monde-là. Le troisième tome qui vient de sortir... Eh bien, en fait, on va suivre l'histoire d'une fille qui est tout en colère. Petit à petit, comment cette fille, qui est que colère, peut réussir à se livrer aux autres. Donc voilà, j'attends avec impatience le quatrième et le cinquième. C'est pour moi une des meilleures séries jeunesse du monde.
Bonjour, moi je m'appelle donc Johanna Finance et puis je travaille à la librairie Tour et Détour, qui est une librairie itinérante, ambulante, et qui sillonne les Hauts-de-France à travers les marchés et les festivals de la région. Les incontournables de la rentrée littéraire, moi je dirais qu'il y a bien sûr le Virginie Despentes, dont on parle beaucoup, qui s'appelle Cher Connard, qui est un roman assez engagé féministe, et puis celui de Laurent Godet, Chien 51, qui vient de paraître chez Actes Sud, qui est un peu un roman science-fiction, ça change un petit peu avec une uchronie, donc là c'est quand même, on en parle énormément aussi, et puis celui de Lola Lafon, Quand tu écouteras cette chanson, qui est un très beau livre aussi, qui est paru dans cette collection où les auteurs choisissent de passer une nuit dans un musée et elle a choisi de passer la nuit au musée Anne Frank à Amsterdam et donc elle raconte un peu ses impressions. C'est un très beau livre. Et puis le dernier, je pense qu'on en parle aussi énormément, qui est très beau et très, très juste, c'est Emmanuel Carrère, qui s'appelle V13 chez POL et qui relate sur 9 mois toutes ses chroniques et tous les jours qu'il a passé au tribunal à suivre le jugement des personnes concerné dans les attentats du Bataclan. Voilà, donc ça c'est vraiment un très beau texte et c'est très juste à lire, c'est vraiment pour moi les 5 incontournables quoi.
Est-ce que vous personnellement vous avez des pépites ou des coups de cœur ?
Alors moi la petite pépite c'est chez un tout petit éditeur qui fait toujours des très beaux livres, ça s'appelle 3 ruches bleues, c'est un livre de Patrick Clou, édité à La Fosse aux Ours. Donc c'est un très joli texte, assez littéraire. C'était un ancien libraire, ce monsieur, et qui est maintenant apiculteur et qui raconte un peu comment les abeilles rythment sa vie et rythment les saisons, en fait. Et à ce moment, et à partir de là, il raconte aussi ses impressions, ce qui se passe au niveau de l'environnement aussi. C'est vraiment un très, très joli texte pour les amoureux des abeilles, de l'apiculture, mais pas que. Il y a plein de références littéraires aussi. Voilà, c'est assez exigeant, mais il se passe pas forcément grand-chose. C'est vraiment sur une année où il va raconter sa relation avec ses ruches. Et c'est très, très beau. On en parle beaucoup moins, mais pour moi, il faut vraiment le signaler, parce que c'est un très beau texte et un très bel ouvrage aussi. Et puis un autre coup de cœur, c'est une auteure que j'adore et qui viendra d'ailleurs au mois d'octobre, car je l'ai invitée pour une rencontre littéraire, c'est Gaëlle Josse, et elle vient de sortir La Nuit des Pères chez Notabilia. Et c'est un très très beau texte, toujours très intimiste, sur l'histoire, cette fois-ci d'une fille qui rejoint son père en montagne, après des années de silence, une relation très conflictuelle entre père et fille. Voilà, et là elle apprend que via son frère que son père est atteint d'Alzheimer, et là voilà, ça va être le moment de la reconstruction entre eux, en tout cas essayer de reconstruire ce qui peut encore être vécu. Et un autre coup de cœur, Zizi Cabane de Bérangère Cournu, on en parle aussi beaucoup, c'est aux éditions du Tripode. Comme dans tous ses bouquins, il y a question de merveilleux, de contes, de fantastique un petit peu, c'est assez particulier ce qu'elle écrit, avec une très belle couverture. Et là, on suit l'histoire d'une mère de famille qui va disparaître et qui va se se métamorphoser dans l'eau et dans la rivière, et donc elle va essayer de continuer à garder le lien avec ses trois enfants, dont Zizi Cabane, qui est le titre du livre et qui est la plus petite fille de la famille. Et on va avoir la voix de ces trois enfants qui vivent sans leur mère, avec leur papa. C'est un très très beau texte, beaucoup de merveilleux et de fantastique dans le texte, mais il faut vraiment découvrir si vous ne connaissez pas. Bérangère Cournue, au Tripode.
Alors justement, vous parliez tout à l'heure qu'on pouvait vous retrouver en octobre. Quelles sont les actualités de la librairie? Où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Alors, comme d'habitude, à travers les réseaux sociaux et le site internet, vous pouvez me retrouver à chaque fois. Je mets vraiment mon parcours qui est très régulier sur les marchés de la région, notamment à Arras le mercredi et samedi, hein. Mais pas que. Après, vous avez aussi Ablain, Saint-Nazaire, Souchez, Rivière, Oisille-Verger. Et puis, à côté de ça, je vais faire des rencontres littéraires. J'en parlais tout à l'heure avec Gaël Josse le 19 octobre au Chouca des Tours à Mont-Saint-Éloi, qui est un café citoyen. Et puis, je vais aussi présenter la rentrée littéraire le vendredi 23 septembre au soir, où là, je présenterai une quinzaine de coups de cœur. Et puis, je ferai aussi, bien sûr, la vente derrière. Et ça sera aussi au Chouca des Tours à Mont-Saint-Éloi.
C'était Johanna de Tours et des Tours pour ses recommandations littéraires. On termine maintenant avec Pierre du Légendarium.
Je suis Pierre, donc gérant du Légendarium, qui est une librairie spécialisée en littérature de l'imaginaire et de genre. Pour moi, en tout cas, un des gros coups de cœur que j'ai eu vraiment cet été, c'était surtout avec la trilogie des Poudres Mages, qui est publiée chez Léa, qui, en tout cas, a fait pas mal parler d'elle, on va dire, à la publication du premier tome. Le second tome est prévu, normalement, à la fin de ce mois de septembre, et qui va nous mettre, on va dire, dans le pays d'Adro, qui est un pays qui a vécu sa révolution. C'est-à-dire qu'on va directement rentrer dans l'action, il n'y a pas, on va dire, de plan de préparation à savoir comment elle va se mettre en place, c'est que ça y est, c'est fait. Le général Tamas et ses poudres mages, donc, ont mis à bas la monarchie, et du coup, maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment on va mettre en place toutes les réformes, idées nouvelles, et jusqu'où on va aller pour faire en sorte d'accepter cette idée de nouveau pouvoir, là où la monarchie gouverner du main de fer, et surtout aussi de se dépêcher aussi de faire en sorte que ça se fasse de la meilleure façon possible, même si tout ne se fera pas effectivement, tout ne se fera pas dans le calme le plus absolu, hein, et surtout quand on a effectivement des voisins très gourmands qui ne rêvent que d'une seule chose, montrer effectivement que chez eux une révolution n'est pas possible, et aussi que maintenant que le puissant voisin est un petit peu affaibli, c'est le moment de se servir. On va avoir effectivement des personnages qui sont tout en nuances de gris, qui sont, on va dire, absents de pas mal de manichéisme, pas mal d'action aussi, et surtout une magie particulière, vu que les poudres mages sont des êtres exceptionnels qui, grâce à la poudre à canon qu'ils ingèrent, au détriment de leur santé, peuvent améliorer leur capacité à la fois physique ou même psychique aussi, pour effectivement accomplir des choses absolument incroyables. En tout cas, on est plutôt sur une série qui est assez tournée adulte, qui est assez sombre, voire qui peut se montrer aussi sans concession.
Et alors pourquoi c'est un coup de cœur?
Aussi bien en matière de rythme, où on est quand même vraiment sur quelque chose d'assez intense aussi, c'est, outre, on va dire, une écriture qui est très efficace, et je trouve une traduction qui est loin d'être manchotte, on va vraiment être entraîné par le récit, en plus d'avoir des personnages qui sont assez emblématiques, ce côté aussi d'esprit, on va dire, presque de camaraderie, sur le régiment en tout cas du personnage principal, ainsi qu'effectivement le côté où aucun personnage n'est vraiment, on va dire, tout blanc ou tout noir. Au contraire, il y a énormément de nuances qui fait que chacun aura effectivement l'occasion un petit peu de juger du bien fondé de leur action.
Une deuxième recommandation à nous faire?
Là, on va être encore sur une série aussi qui est sortie chez Critique très récemment, qui s'appelle Le Songon Écumène, qui place son action dans un futur de l'humanité où l'humanité a conquis les étoiles, un petit peu comme à la manière, on va dire, des Grecs antiques, dans une espèce de cercle d'influence où les empereurs vivent de façon très longue, vu, on va dire, le nombre de technologies qu'on a réussi à développer pour les maintenir en vie. Mais il se trouve qu'au moment de l'histoire, l'empereur, en tout cas, se meurt. Pour le coup, et c'est le moment où effectivement tous les conseillers avisés, les amiraux ambitieux décident qu'il y a peut-être une carte à jouer, et de ce fait vont effectivement déclencher une guerre civile qui va plonger, on va dire, les personnages principaux dans La Tourmente, que ce soit, on va dire, un jeune pilote émérite, une mutante au pouvoir psychique qui commence en tout cas à maîtriser ses pouvoirs, et surtout un moine défroqué qui souhaite effectivement se retrouver une nouvelle raison de vivre, sauf que le naturel va vite arriver au galop. Et le tout, on va dire, dans un space opéra bien rythmé, qui met beaucoup l'accent, on va dire, sur l'aventure et sur les valeurs humaines. C'est vrai que, à force, on va dire, d'être dans des univers un petit peu crapoteux, j'avais besoin, on va dire, un peu de science-fiction à l'ancienne, même de space opéra à l'ancienne, qui va regrouper pas mal de vieilles recettes qu'on connaît déjà, qui ont été vues aussi bien dans du Star Wars, dans du Star Trek, ou encore dans du Dune aussi, qui va regrouper un petit peu tout ça, avec aussi ce sentiment d'aventure aussi, un petit peu, qu'on avait un petit peu perdu par rapport, on va dire, aux productions actuelles. Il y a un petit côté, un peu retour aux sources, qui fera plaisir, on va dire, aux amateurs de space opéra de la première heure, tout simplement. Sachant qu'en tout cas, ça fera partie d'un cycle qui est plutôt assez long, 5 tomes sont prévus, et pour le coup, tout a déjà été traduit. On a effectivement les 2 premiers tomes qui sont sortis cette année, dont le dernier est sorti cet été. Le prochain est prévu dans pas si longtemps que ça, il me semble, pour le mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Et surtout, le truc qui est le plus intriguant, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est effectivement l'auteur de l'œuvre. Apparemment, il y a quelques indices qui pourraient effectivement révéler son identité, mais pour l'heure actuelle, je ne sais toujours pas qui est John Crosford. Et critique ne le révélera qu'au moment opportun.
Pour retrouver le Légendarium direction rue Émile Le Grel à Arras. Et on espère que vous avez trouvé de nouvelles inspirations littéraires qui animeront vos longues journées de travail ou vos dimanches pluvieux.